demander aux athées, aux sceptiques et aux agnostiques si Jésus a vraiment existé. Et pour la plupart, ils vont vous répondre oui, Jésus est un personnage historique. Demandez à ces gens si Jésus a été crucifié, et la plupart d'entre eux vont vous dire c'est tout à fait plausible. Maintenant, demandez-leur si Jésus est ressuscité, et tout son cœur, ils vont vous dire impossible. Impossible. C'est impossible parce que, comme tout le monde le sait, il n'y a rien après la mort et le surnaturel n'existe pas. Jésus n'est qu'un homme. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas apparu aux disciples. Et il n'est pas monté au ciel. La foi, c'est juste une grosse blague, non? Pour beaucoup de gens, croire à la résurrection de Jésus, c'est comme sauter dans le vide. La foi se moque de la raison, n'est-ce pas? La foi se moque de ce qui est réel. C'est un suicide intellectuel, non? Dans un livre qui s'appelle « Le dictionnaire du diable », l'écrivain Ambrose Bierce définit la foi de la manière suivante. Croyance sans preuve dans ce qui est affirmé par quelqu'un qui parle sans savoir et qui pense sans comparer. On prétend que la foi est dangereuse et que les croyants sont une menace pour le progrès. La réponse des sceptiques à la résurrection de Jésus, c'est la suivante. Je ne croirai point. Alors, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour sauter dans le vide? Pour dire adieu à la raison? Pour célébrer la folie, peut-être? Pourquoi nous rassemblons-nous en ce jour de Pâques? Nous sommes ici pour célébrer un événement historique qui a changé le monde, la résurrection de Jésus. Nous sommes ici afin de proclamer la victoire de Dieu sur la mort et le péché. Dieu veut que nous croyions, mais ce qu'il veut, c'est la foi, pas la folie. Je veux que nous réfléchissions en ce jour de Pâques à la résurrection de Jésus, et nous allons le faire à travers l'histoire du disciple Thomas et de ses doutes. Une histoire que l'on trouve dans Jean chapitre 20. Lisons donc Jean 20, versets 24 à 31. Jean 20, 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets mon main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Avant de continuer, je vous invite à la prière. Sans ta parole, Seigneur, nous sommes perdus. Notre raison, notre connaissance nous aident beaucoup dans la vie, mais à elles seules, elles ne nous permettent pas de savoir qui tu es vraiment, ni ce que tu fais. C'est ta parole qui nous guide dans la vie, Seigneur, et qui nous révèle à la fois notre besoin et le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce texte aujourd'hui et pour l'appliquer à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Il y a deux façons de répondre à la bonne nouvelle de Pâques. En disant « Je ne croirai point » ou bien en s'exclamant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans ce texte, on va voir qu'il y a quelque chose que Dieu nous demande et quelque chose que Dieu nous donne. Ce qu'il nous demande, c'est de croire. Ce qu'il nous donne, c'est toutes les raisons de croire. Le premier point donc que je veux souligner dans ce texte, c'est l'idée que Dieu nous demande de croire à la résurrection de Jésus. Thomas est un disciple qui est connu pour ses doutes. Il donne à Dieu un ultimatum. Montre-moi des preuves, sinon je ne te croirai pas. C'est grave ce qu'il dit, mais on ne peut pas trop faire des reproches à Thomas pour ses doutes. Il y a de fortes chances que dans les mêmes circonstances, n'importe quel autre disciple aurait douté aussi. Mais en tout cas, Thomas pense que la résurrection de Jésus, c'est quelque chose de trop incroyable pour être vrai. Alors que le fait d'y croire, c'est exactement ce que Jésus demande de lui. En fait, Jésus nous demande la même chose à nous. Jésus dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il parle des gens qui sont dans notre situation. Avoir la foi, c'est reconnaître que bien que certaines réalités soient cachées de nos yeux, nous pouvons quand même nous fier à ces réalités. Hébreux 11, par exemple, nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais est-ce que ça fait du croyant un fou? Pas du tout. Il y a plein de choses auxquelles on croit par la foi. La foi en elle-même n'est pas une folie. C'est plutôt l'objet de la foi qui nous pose des problèmes parfois. Croyez-vous, par exemple, que le soleil va se lever demain matin? Pourtant, que vous puissiez vous en souvenir, le soleil s'est toujours levé le matin, n'est-ce pas? D'après les scientifiques, le soleil va encore exister pour plusieurs millions d'années. Croyez-vous donc à la fidélité du soleil pour demain? Je pense que oui. Pourtant, vous ne voyez pas l'avenir, mais vous vous attendez à ce que le système solaire existe encore demain. Vous avez la foi. Mais imaginez qu'un homme vous aborde dans la rue et vous demande de lui prêter 20 euros. Vous n'avez jamais vu ce gars de toute votre vie, mais il vous promet qu'il va vous rembourser la semaine prochaine. Est-ce que vous allez vous fier à lui et à sa promesse? Dans ce cas précis, la foi est un peu plus difficile, n'est-ce pas? En fait, ce serait presque une folie de croire cet homme. Mais croyez-vous qu'un Dieu tout-puissant puisse ressusciter un homme mort? Ce n'est pas aussi incroyable que ça. Par définition, Dieu est quelqu'un qui peut faire des choses surnaturelles, n'est-ce pas? Le doute de Thomas au sujet de la résurrection n'est pas si différent de nos doutes aujourd'hui. Ce n'est pas la foi qui nous pose des problèmes. C'est l'objet de la foi qui nous pose des problèmes. On a tous foi en certaines choses. On met tous notre confiance en certaines idées. La foi, ce n'est pas le vrai problème. Mais trop souvent, on répond à Dieu comme on répondait au gars dans la rue qui nous promet de nous rembourser, au lieu de répondre à Dieu comme à celui qui est plus fiable et plus fidèle que le soleil lui-même. trop souvent, notre réponse à la résurrection de Jésus, c'est de dire « Je ne croirai point ». Et à quoi croirons-nous à la place? À des discours politiques, peut-être, à des idées reçues, à des conjectures, et à beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus incroyables et qui nous donnent beaucoup moins d'espoir que la résurrection de Jésus par la main de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être crédules par rapport à une histoire absurde. Il nous demande de croire à quelque chose de plus que possible, à quelque chose de plus que probable, à quelque chose de sûr. Ce que Dieu veut, c'est que les gens qui disent « Je ne croirai point » disent plutôt « Mon Seigneur et mon Dieu ». La deuxième chose que je veux souligner dans ce texte, c'est le fait que Jésus donne des preuves à Thomas. C'est sûr que Jésus demande la foi, mais cette foi est basée sur des faits historiques, sur des témoignages oculaires et sur ce que Dieu a dit. Mieux encore, la foi est basée sur Dieu lui-même. Le monde pense qu'être un chrétien, ça veut dire sauter dans le vide. Mais si vous voulez savoir à quoi ça ressemble vraiment de sauter dans le vide, je vais vous le dire. Imaginez que le corps de Jésus soit resté dans le tombeau, que la pierre tombale soit bel et bien restée à sa place devant l'entrée, et que personne n'ait jamais revu Jésus vivant. Et imaginez que malgré tout ça, la Bible nous appelle quand même à croire. Dans ce cas-là, ce serait vraiment un saut dans le vide de croire. Mais comment Jésus répond-il à Thomas dans ce texte? « Viens Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains. » Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Si Jésus s'en fichait de donner des preuves de la résurrection, il ne serait pas apparu à Marie, par exemple. Il n'aurait pas laissé le tombe vide. Il ne serait pas apparu aux disciples. Il n'aurait pas montré ses mains percées par les clous. Il n'aurait pas parlé à Thomas. Notre Dieu est un Dieu qui agit dans le temps et dans l'espace. Il est un Dieu qui œuvre dans le monde. Il ne se cache pas. Il n'est pas un Dieu qui nous demande de sauter dans le vide. Le problème de Thomas, ce n'était pas qu'il voulait une preuve. Son problème, c'était qu'il voulait encore une preuve alors que Jésus en avait déjà fourni des preuves. Thomas avait vu les miracles de Jésus. Il avait entendu les promesses de Jésus. Il avait écouté le témoignage de Marie et des 10 autres disciples qui avaient vu Jésus après la résurrection. Les preuves, il y en avait déjà suffisamment. Mais Thomas a choisi de toutes les rejeter. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation semblable à celle de Thomas. On a déjà des preuves, mais on a envie d'en avoir plus. Mais si Jésus dénonce cette attitude, Jésus fait un genre de déclaration solennelle, comme une béatitude au sujet des gens qui croient. Heureux, heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui en croient, et qui ont cru. Autrement dit, béni soient ceux qui croient. Ou encore, ils reçoivent la faveur de Dieu, ceux qui fient à Dieu. Heureux ceux qui ne s'arrêtent pas aux limites de leur propre raison, mais qui passent à l'étape suivante, à l'étape lumineuse de la foi en Jésus. La résurrection de Jésus constitue une horreur pour les sceptiques. Dites-vous bien que la résurrection de Jésus est considérée comme une offense et même un crime contre l'athéisme, on peut dire, un crime contre le scepticisme, un crime contre notre incrédulité et notre rejet de Dieu. Si on veut prouver devant un tribunal que Jésus est bel et bien coupable d'être ressuscité, les preuves sont accablantes. Jésus a prédit publiquement qu'il ressusciterait. Tout le monde l'a entendu. Il a prouvé sa puissance sur la nature et sur la maladie en accomplissant de nombreux miracles en public. Beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies à travers sa vie et son ministère. Personne n'a jamais pu présenter une contre-histoire pour démontrer que c'était un canular. Le tombeau de Jésus est vide aujourd'hui. Le suspect, Jésus, a visité ses disciples et d'autres gens à plusieurs reprises après sa mort. Il leur a montré son corps. Il n'était pas un fantôme. Et après l'avoir vu, ses disciples ont été radicalement transformés. Ce petit groupe de mauviettes ignorantes est devenu une force irrépressible, pleine de conviction et de courage. Avant de voir Jésus, ils avaient peur, ils se cachaient. Après avoir vu Jésus, ils ont annoncé la bonne nouvelle jusqu'à leur mort. Je crois que cela ne fait pas de doute. Jésus est bien coupable d'être ressuscité. Il est coupable d'avoir transformé les gens en bien. Il est coupable de nous avoir réconciliés avec Dieu. S'il y avait un tel crime que celui d'être ressuscité, Jésus serait reconnu coupable. Les versets 30 et 31 nous montrent que Dieu n'a pas peur des preuves. L'apôtre Jean a écrit son évangile pour que nous ayons toutes les raisons de le croire. Et c'est à cause de ces raisons que nous pouvons nous aussi aujourd'hui arrêter de dire « je ne croirai point » et confesser plutôt « mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu attend notre réponse. Si Jésus est bel et bien ressuscité, il est de notre devoir de le croire. Si nous le croyons, il est de notre devoir de confesser Jésus comme Seigneur et Dieu. Et si nous le confessons comme Seigneur et Dieu, cela veut dire que nous l'invitons à régner dans notre vie aussi. Les événements de la semaine de Pâques sont les plus importants de toute l'histoire. La mort de Jésus à notre place a expié nos péchés. Ce qui veut dire que Jésus a enlevé nos péchés. La mort de Jésus à notre place a satisfait la colère de Dieu contre nous qui sommes pécheurs. Grâce à sa mort, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et grâce à sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et le péché qui nous entraînaient en enfer. Grâce à sa résurrection, on a toutes les raisons de confesser mon Seigneur et mon Dieu. La foi est possible grâce à l'œuvre de Dieu dans ce monde et grâce à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ça nous encourage parce que si Dieu a vaincu la mort et le péché par la croix et par la résurrection de Jésus, alors à combien plus forte raison pouvons-nous croire que Dieu est capable de réaliser des choses extraordinaires dans notre vie? Si Dieu a vaincu la mort et s'il a détruit la malédiction de la séparation qu'il y avait entre Dieu et l'homme, alors à combien plus forte raison pouvons-nous croire que Dieu est capable de nous aider à surmonter nos luttes intérieures, nos maladies, nos peurs, nos relations brisées, nos doutes et nos déceptions dans la vie. J'imagine que vous connaissez tous la tour Eiffel à Paris, bien sûr. C'est un monument mondialement connu. À l'époque où elle a été construite, c'était la tour la plus haute du monde. La fabrication d'une tour telle que la tour Eiffel, ça nécessite une connaissance incroyable des mathématiques, de la physique, de la conception architecturale par exemple. Si Gustave Eiffel a construit une tour pareille, à combien plus forte raison était-il capable de construire une petite cabane de 10 mètres carrés Vous voyez, le jour de Pâques, Jésus a vaincu la tombe. C'est un exploit extraordinaire que Dieu avait décrété avant de la fondation du monde. C'est un exploit incroyable que Dieu a accompli dans le temps et dans l'espace. À combien plus forte raison pouvons-nous croire que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? À combien plus forte raison pouvons-nous croire qu'il peut transformer nos doutes en foi et guérir notre vie brisée? Il y a deux réponses possibles à Jésus dans la vie. Je ne croirai point, ou bien mon Seigneur et mon Dieu. Il y a deux réponses possibles face aux difficultés dans la vie. Je ne croirai point, ou bien mon Seigneur et mon Dieu. Il y a deux réponses possibles face à la mort et à l'éternité. Je ne croirai point, ou bien mon Seigneur et mon Dieu. Dieu nous a donné toutes les raisons de croire. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions confesser ensemble, « Je crois en toi, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. » Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous célébrons ta mort et ta résurrection. Nous te louons parce que tu as fait quelque chose de merveilleux, de puissant et d'incomparable. Tu as vaincu le péché et la mort, Seigneur. Tu as rétabli notre relation avec le Père. Tu nous as donné une bonne raison de sourire aujourd'hui. Tu nous as donné toutes les raisons de croire en toi et de placer notre foi en toi. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.